Les problématiques varient évidemment un petit peu selon les pays, donc il est important de faire une bonne analyse contextuelle au départ. Mais c'est souvent ce qu'on va regarder, c'est comment les parents arrivent à traduire les services existants, les ressources existantes en soins pour les enfants. Donc par exemple, est-ce qu'il y a suffisamment à manger? S'il y a suffisamment à manger, quelle est la répartition à la maison? Est-ce que la maman, elle est déprimée, qui fait qu'elle a du mal à s'occuper des enfants, et dans ce cas-là, il y a un accompagnement au niveau de la dépression à faire? Est-ce qu'elle aimerait faire des choses, mais la belle-mère lui interdit parce qu'on pense que dans cette croyance-là ou dans cette culture-là, il n'est pas bon de donner le colostrum à un enfant tout petit? Et donc nous, on va travailler sur repérer un petit peu les pratiques de soins, repérer ce qui permet la mise en œuvre de bonnes pratiques de soins ou ce qui empêche la mise en œuvre de bonnes pratiques de soins, et travailler à accompagner les familles et les communautés sur ce changement de comportement.
Mais au-delà de la psychologie, est-ce que le premier problème ne reste pas quand même le manque de nourriture dans ces pays-là?
Dans un contexte de grande famine, par exemple, il n'y a pas assez à manger pour tout le monde. Toute la population est en état de dénutrition. Et dans ce cas-là, bien sûr, la première chose à faire, c'est donner à manger. Après, on se rend compte qu'il y a plein de situations où les choses ne sont pas du tout si simples. Les adultes, par exemple, ne sont pas forcément malnutris, ou dans la famille, il y a cet enfant qui est malnutri et pas les autres enfants. Et donc, c'est là où c'est intéressant de regarder un peu les autres facteurs qui peuvent contribuer à la malnutrition, dont les problématiques autour de tout ce qui est pratique de soins infantiles ou conduite de maternage.
Et est-ce qu'il n'est pas difficile parfois d'amener un regard psychologique dans des pays qui n'ont pas forcément des croyances compatibles avec la psychologie?
Ça dépend des contextes. Il y a effectivement pas mal de cultures où le recours à un psychologue est totalement inhabituel. Et dans ces cas-là, alors ça dépend un petit peu. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où il y a une grosse catastrophe. Je pense par exemple à l'Afghanistan avec toutes les années de conflit, ou à Haïti après le tremblement de terre, où même si habituellement la population n'a pas forcément recours aux psychologues, là, ils en entendent beaucoup parler humanitaires déjà, mais aussi l'impact est tellement fort qu'il y a une vraie demande qui apparaît en disant en ce moment on a besoin de psychologues. Donc dans ces contextes-là, effectivement, il y a souvent une ouverture qui est liée à un bouleversement très fort au niveau social qui fait qu'il y a une demande qui émerge.
Mais il y a d'autres cas où c'est plus compliqué ?
Mais il y a d'autres cas où c'est plus compliqué et où c'est pas forcément indispensable non plus d'être dans une relation telle qu'on peut l'imaginer du rôle du psychologue en France. C'est vrai que le rôle du psychologue qu'on va avoir dans l'humanitaire et sur le terrain va être beaucoup plus large que ce qu'on peut imaginer, en tout cas d'un psychologue clinicien en France qui serait dans son bureau à recevoir des patients et à proposer des consultations individuelles. Là, on va travailler avec le groupe, dans des centres nutritionnels, pendant des distributions alimentaires, on va aller au domicile des gens, on va travailler avec la famille. Donc on est dans une dynamique assez différente et un éventail très très large de types d'interventions.
Et alors finalement, quels sont les résultats de cette méthode psychologique? Est-ce que ça marche?
Il y a des impacts déjà tout simplement au niveau de notre compréhension du contexte et des causes de la sous-nutrition. Un autre impact qu'on a pu observer, c'est sur par exemple l'observance du traitement nutritionnel. Quand on a des enfants qui sont sévèrement malnutris, effectivement, le fait d'accompagner les familles, de leur expliquer le traitement, d'en faire des partenaires de la prise en charge de l'enfant, de travailler avec eux sur comment stimuler leur enfant qui est sévèrement malnutri, a une dimension importante aussi sur bien sûr la qualité du traitement, mais aussi sur son efficacité.